pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Ah oui, on tousse, mais pour s'éclaircir la voix. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Denis.
Bonsoir.
Alors ce soir, on va faire un peu de stratégie militaire et de tactique militaire, et tout cela dans une perspective matérialiste. Alors, pour attraper les auditeurs qui ont déjà fui, là, qui ont déjà changé de chaîne, il n'y a pas du tout de... Vous inquiétez pas, hein, on va pas faire...
On va faire
des
propagandes.
Non, on va surtout en plus pas parler de bidasserie ou de stratégie, de tactique et tout ça, machin, de rentrer dans les détails. On va essayer de penser, de projeter un élément d'actualité, hein, en l'occurrence le blocus naval, puisque c'est un élément dont vous entendez beaucoup parler aujourd'hui dans la guerre au Proche-Orient et dans le conflit qui oppose l'Iran et les États-Unis. Et l'intérêt de prendre un peu de recul par rapport à ça, c'est d'une part de poser la question des stratégies des puissances impérialistes, de voir comment aujourd'hui la puissance en elle-même n'est plus un élément important ou intéressant pour gagner un conflit armé. Faut-il le rappeler, hein, depuis bientôt 50 ans, aucune grande puissance n'a gagné un conflit contre un adversaire plus faible en théorie, en tous les cas plus faible sur le papier. Alors évidemment, le truc le plus important, c'est les États-Unis contre le Vietnam, hein, bien sûr. Mais au cours de ces 50 dernières années, quand on regarde les rapports de force, on voit que la puissance n'est plus un élément aussi important qu'auparavant et ne permet pas de faire céder le faible. Et ce qui est intéressant, c'est que le blocus, en fait, hein, le blocus naval, en l'occurrence, c'est quelque chose qui a une longue histoire dans la stratégie militaire, et c'est quelque chose qui naît aussi particulièrement avec le capitalisme, puisque un des moments triomphants du capitalisme, c'est évidemment le 19e siècle avec l'Angleterre et avec le commerce et avec l'invention du droit maritime. Donc avec tous ces échanges, toute cette question de la puissance et du contrôle des échanges, du contrôle naval et également de la réglementation des conflits, la réglementation et l'invention du droit maritime, la réglementation du commerce, et la question aussi de qui on tape, qu'est-ce qu'on tape, qu'est-ce qu'on va chercher lorsqu'on est dans un affrontement entre puissances. Est-ce qu'on va chercher à détruire l'ennemi? Est-ce qu'on va chercher à le faire plier? Ou est-ce qu'on va chercher à entrer dans une guerre aussi économique, une guerre sur les civils, etc., etc. Et donc l'intérêt de prendre un peu de recul par rapport à ça, c'est de voir comment et combien à la fois les États-Unis aujourd'hui dans leur blocus sont complètement à côté de leur pompe et à côté de la plaque, mais que aussi ça témoigne d'une certaine culture et d'un certain moment des rapports de force entre impérialistes, bien sûr, mais aussi entre puissances, mais aussi dans les échanges économiques, et comment cet état de blocus, il nous renseigne bien sur les rapports de force aujourd'hui à l'échelle de la planète. Alors pour ça, je me suis servi, parce que évidemment, la guerre, ce sont encore les militaires qui en parlent le mieux, d'un petit podcast que j'ai trouvé sur un des très nombreux avatars du ministère de la Défense, de l'IHEDN, donc l'Institut des Hautes Études pour la Défense Nationale, qui sont des espèces de trucs, hein, de think tank, à la fois à mi-chemin entre le privé et le public, la recherche publique, mais aussi les armées, mais aussi les vendeurs d'armes, et qui, eux, ne chôment pas, contrairement à nous, et sont tout le temps en train d'interroger, de rechercher et de penser la stratégie. C'est d'ailleurs à ça qu'on le paye, et à ça qu'on les paye, et c'est à ça que ça sert. Alors voilà, ça dure un petit moment, donc soyez bien attentifs, mais je pense, en tous les cas, chez moi, ça a suscité un grand intérêt, et j'espère que ça sera la même chose pour vous. On va le lancer, et on se retrouve peut-être juste après, même si c'est assez long, on verra si on a des trucs à dire.
Je suis Alexandre Dublin, comme toujours en compagnie d'André Loz. Bonjour André.
Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et tous. Et aujourd'hui, un fil de l'épée un peu plus actuel que d'habitude, parce qu'on va parler de blocus. Si ce qui se passe à la sortie du détroit d'Ormuz peut vraiment être appelé blocus, on va essayer d'y réfléchir à partir de précédents historiques. En compagnie de notre invité, bonjour Thomas Vesset.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université du Havre, historien de la guerre navale au XXe siècle, et comme nous, vous êtes assez perplexe sur ce à quoi on assiste, mais... Plus que nous, vous avez des ressources pour y réfléchir parce que vous avez écrit un article sur un blocus de la flotte française en Méditerranée en 1914-1915, on mettra la référence en ligne, et puis vous avez voilà, une réflexion sur l'histoire navale à partir de laquelle on va essayer peut-être, en toute première approche, de définir ce qu'est un blocus.
Un blocus, donc, c'est un acte de guerre, c'est une opération militaire qui consiste à bloquer, à essayer d'empêcher les flux, que ce soit des flux humains ou des flux matériels, vers et en provenance d'une région délimitée, en l'occurrence pour un blocus maritime, c'est un port. Donc c'est un acte de guerre au sens du droit international. Il y a eu alors, une longue tradition, on a beaucoup réfléchi sur l'action du blocus, et il y a grosso modo deux grands textes qui vont fonder le droit du blocus. Il y a tout d'abord la déclaration de Paris de 1856, qui se tient dans le contexte de la fin de la guerre de Crimée, et ensuite, dans le contexte des conférences du tournant du 19e-20e siècle, la déclaration de Londres de 1909, qui vise voilà, à essayer de trouver un cadre juridique, et dans ce cadre juridique, on indique quelques éléments, enfin il y a quelques éléments qui ressortent. Tout d'abord, c'est que pour qu'on parle de blocus, ou qu'un blocus soit légal, il faut qu'il soit effectif, il faut qu'il soit tenu. Alors on va revenir à cette question-là parce que c'est quelque chose qui va traverser les siècles. Il faut ensuite que ce blocus soit notifié. Alors, il y a une date de début, il y a une zone géographique qui est concernée par le blocus, et on laisse en général un délai au neutre pour quitter, pour quitter la zone. Donc, c'est ça, grosso modo.
Peut-être en contrepoint, pour bien comprendre pourquoi c'est un acte de guerre, c'est parce qu'il y a un autre principe qui a tendu à s'affirmer, et en particulier au XXe siècle, c'est celui de la liberté des mers. On sait que c'est un des principes wilsoniens, en particulier après la Première Guerre mondiale, et qui est lui aussi codifié en droit international. La circulation maritime doit être libre, donc la bloquer... De cette manière-là, c'est un acte de guerre.
Voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment énormément de réflexions sur... Il y a vraiment une tension entre les deux. Et de toute façon, pour les blocus, en grosso modo, on distingue deux types de blocus. Un blocus militaire, un blocus commercial. Et le blocus commercial, en fait, qu'est-ce qu'on bloque? En fait, c'est les neutres. Et donc, de fait, on empêche aux neutres d'exercer leur liberté de naviguer en mer, leur liberté de commerce. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette tension-là et tout le débat et tous les efforts de réflexion autour de la définition de ce qu'est un blocus et de ce qu'est un blocus légal.
Ça pose aussi une question très technique, c'est comment ça marche, qui est une question qu'on voit évidemment très largement en ce moment, avec un truc que je dis souvent à ce micro, mais que la mer c'est grand, et les navires c'est petit, et que du coup c'est par définition toujours difficile de contrôler exactement un espace maritime, et c'est encore vrai, encore plus le cas, disons, dans les époques les plus anciennes, puisque, bon, à l'époque de la marine à voile, et d'une manière générale, c'est quand même très difficile de couvrir du terrain et d'empêcher absolument quelqu'un de passer. Donc, à partir de quel moment est-ce que on trouve, ou est-ce que, disons, le blocus devient quelque chose qui est techniquement faisable, qui est techniquement, disons, applicable, qu'on peut réellement faire appliquer à
Alors,
votre sens.
Le blocus, tel qu'on le connaît plus ou moins aujourd'hui, ça se cristallise pendant l'époque moderne. Au XVIIe siècle, on va bloquer des portions très restreintes de littoral pendant une période très limité, et la bascule c'est plutôt le XVIIIe siècle où on va alors essayer avec plus ou moins de succès, parce que voilà c'est un autre élément, mais de bloquer des portions plus importantes de littoral, et surtout en fait pendant une période longue, voire même pendant l'hiver, ce qui est très compliqué au temps de la marine à voile, et donc voilà c'est plutôt la période moderne qui va commencer à cristalliser véritablement tout ce que nous on qualifie de blocus.
Oui, avec des premières réflexions quand on lit un petit peu sur la question, qu'on voit apparaître fin XVIe siècle, et en particulier le grand juriste néerlandais Grotius, qui serait le premier à avoir utilisé ce terme dérivé de l'allemand qui désigne un fort. En fait, blocus ça vient de blocos, c'est la même idée, sauf que on applique pique à la mer l'idée qu'on va bloquer. En fait, pendant très longtemps, le blocus n'est pas distingué du siège terrestre. Et encore dans l'article blocus de l'encyclopédie, on voit qu'un blocus est un siège et que les deux sont presque interchangeables. Et l'idée d'un blocus naval, c'est finalement assez tard que ça se cristallise pleinement.
Ça se cristallise effectivement au moment où le droit de la mer va véritablement se définir. C'est-à-dire, fait cette période effectivement avec Grotius et tout le débat autour de mer ouverte, mer fermée, liberté de navigation ou au contraire capacité de contrôler la mer. Et donc, c'est à ce moment-là effectivement qu'on va commencer véritablement à s'intéresser au blocus avec grosso modo deux grandes conceptions si on veut aller vite. D'un côté, une conception britannique du blocus, qui est un blocus en général, on va dire un blocus fictif. Un blocus de papier, un blocus de cabinet, et du côté des États continentaux, l'insistance sur le fait que pour qu'il y ait blocus, il faut que ce blocus soit effectif, et donc il y a des forces qui bloquent physiquement, en quelque sorte, la zone qui est bloquée.
Parce que l'autre version, donc la version britannique, c'est on le dit, ensuite vous le faites pas, mais si jamais on vous chope, on en chope un jour, on considérera qu'il a transgressé notre blocus, etc. Voilà, on considère qu'il suffit d'un truc déclaratoire pour qu'il y ait blocus, et ensuite on chope qui on peut là où on peut, en considérant cette infraction avérée ou pas, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, le blocus fictif s'accompagne de deux autres éléments. C'est l'idée que un droit de prévention et un droit de suite, c'est qu'en fait, on va considérer que tout bâtiment qui va ou qui revient de la zone bloquée peut être intercepté, qu'il soit à proximité immédiate ou extrêmement loin. Et les Britanniques contrôlant la mer, ça permet de contrôler le trafic dans des espaces qui sont très éloignés de la zone qui a été déclarée en état de blocus. Et c'est pour ça que les puissances continentales vont tout faire pour essayer d'arriver à cette définition d'un blocus effectif pour justement contrer la manière britannique, entre guillemets, de bloquer.
Donc de l'autre côté, puissances continentales, donc la France, mais aussi les États nordiques, les autres disent, en fait, si vous voulez faire un blocus, en vrai, il faut faire un blocus.
Il faut faire un blocus effectif, voilà. Et il y a toute une série de raffinements. Là. Est-ce qu'il faut deux, trois bâtiments? Est-ce qu'on se bloque à proximité immédiate du littoral? Est-ce que on laisse la portée de l'artillerie, enfin bref. Mais en tout cas, l'idée, c'est que voilà, pour qu'il y ait blocus, il faut qu'il y ait des forces qui bloquent physiquement, enfin, qu'on soit
oui, mais justement, c'est-à-dire, ils n'ont pas forcément besoin de tirer sur le navire, ni même de l'arraisonner réellement, mais il faut qu'il soit là.
Voilà.
Pour matérialiser le blocus qui, de toute façon, est toujours un truc déclaratoire.
Voilà, il faut qu'il soit devant, pour qu'on puisse voir.
C'est-à-dire, on pense jamais qu'on va vraiment réussir à intercepter les gens. Enfin, on pense jamais qu'on va vraiment réussir à tous les intercepter à l'endroit qu'on est censé bloquer. Par contre, si on place des forces, on peut dire, bon, bah, on vous chope un peu plus loin, mais on était
voilà,
là.
Voilà, juridiquement, on est couvert en quelque sorte, puisqu'effectivement, après, il y a deux conceptions, un blocus ouvert, blocus fermé. Donc, blocus fermé, c'est qu'on va effectivement essayer, entre guillemets, de sceller le port en quelque sorte. Et le blocus ouvert, c'est qu'on va dire, bah voilà, en fait, on va mettre des forces en alerte qui vont permettre de prévenir de la sortie de tel ou tel bâtiment qu'on va récupérer un peu plus loin.
Ouais, sachant qu'il y a évidemment des zones plus faciles à bloquer que d'autres. Faire un blocus de l'Australie, par exemple, c'est sans doute plus complexe que dans tout petit État avec un seul débouché maritime. Pour toujours bien comprendre ces distinctions, vous avez dit blocus militaire commercial. Si je prends un exemple qu'on développera peut-être un petit peu plus tard, mais prenons la Première Guerre mondiale. Les Alliés font un blocus de l'Allemagne. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension militaire. On veut pas que la flotte allemande de haute mer sorte de Wilhelmshaven en particulier. Donc, on fait en sorte que les navires allemands soient captifs et qui puissent pas se lancer dans des grandes opérations sur mer. Mais il y a aussi, donc ça c'est la dimension militaire, mais il y a aussi la dimension commerciale. C'est, mettons, un bateau suédois chargé de fer pour l'industrie allemande. On va arrêter le bateau suédois en question. Il est pourtant neutre. On va lui dire, non, on a déclaré le blocus. Un neutre ne peut pas transporter des marchandises de guerre vers notre ennemi dans le cadre du conflit. Est-ce que c'est ça la distinction?
C'est grosso modo ça l'idée, effectivement. Même sachant qu'effectivement, dans les faits, hein, les deux sont souvent confondus. Parce qu'en fait,
c'est les mêmes navires qui bloquent les vaisseaux, les cuirassés allemands, que théoriquement le bateau,
pour le blocus commercial est une dimension diplomatique qui va entrer, puisqu'en fait, il y a toute une pression qui est mise sur les neutres pour justement essayer de limiter leur implantation. Il y a une série de ministères. Par exemple, on crée un ministère du blocus en France qui va se charger effectivement d'allonger les listes de blocus pour contrôler ce qui est potentiellement la contrebande absolue, la contrebande relative, donc ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé.
Alors ça, c'est super intéressant. La contrebande, c'est ce qu'on a le droit de saisir quand on fait du blocus. Donc effectivement, si on transporte des explosifs, on va dire assez évident que ça rentre dans le cadre du blocus. Mais si on transporte du coton, alors le coton, on peut faire des uniformes avec. Est-ce que c'est la production de guerre? Oui, mais est-ce que ça peut être pour les civils?
Donc, si on transporte du blé?
Voilà, ce qui va être la grande question, effectivement. Et donc, tout ce qui va faire la légalité ou pas de la cargaison, ça va être la destination finale. Si vous êtes un neutre et que vous vous dirigez vers un port ennemi avec ce qu'on appelle la contrebande conditionnelle, eh bien, la marchandise est saisissable. En revanche, voilà, si vous rentrer, enfin, si vous commercez librement, il n'y a pas de raison qu'on vous bloque et qu'on intervienne dans votre activité.
Avec, on peut mentionner, pendant la Première Guerre mondiale, justement, ils poussent ça encore plus loin, parce que ça, c'est encore plus impossible, à ce stade de mondialisation, c'est encore plus impossible. Donc, ils sont obligés de gérer aussi les États neutres, les États intermédiaires. Donc, il faut faire pression sur les Pays-Bas, il faut faire pression sur la Suisse, etc. Et ils s'autorisent, les Britanniques même, à choper des navires au retour, si simplement ils ont, c'est hyper intéressant parce qu'ils inversent la charge de la preuve. Ils font des volumes en disant c'est pas normal que vous achetiez tant de ça, on soupçonne fortement que ça part à l'Allemagne, donc on vous chope vos navires au retour. C'est hyper intéressant, disons, comme manière de considérer cette espèce d'autorité sur la mer qu'on s'arroge.
Oui, parce qu'en fait, l'originalité de la mer, c'est qu'en fait, vous avez des neutres. C'est-à-dire qu'en fait, sur un champ de bataille au XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de neutres au milieu. Et là, vous avez énormément de neutres qui circulent sur la zone qui est justement de guerre. Et donc, en fait, tout l'objet du blocus, c'est voilà. En fait, l'histoire du blocus a plein d'égards. En fait, ça renvoie à l'histoire de la neutralité. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est possible pour un neutre, qu'est-ce qui n'est pas possible pour un neutre. Et les Britanniques vont même plus loin. Hein, c'est-à-dire qu'à partir de 1915, on va demander aux neutres, en fait, de payer des certificats, en fait, pour les autoriser en fait à naviguer, à rentrer dans les zones, pour justement éviter d'être intercepté, d'être contrôlé, parce qu'il y a le droit de visite qui est très compliqué, parce que normalement le droit de visite se fait en mer, mais avec l'apparition du sous-marin, c'est bien extrêmement dangereux de faire ça en mer, et donc en fait on va dérouter les neutres, ce qui est normalement formellement interdit, et donc voilà, on va trouver tout un système pour justement essayer de contrôler au mieux, essayer de garder la tension entre bah, le droit des neutres de commercer, parce qu'il y a toujours un enjeu, c'est qu'il ne faut pas non plus que les neutres basculent dans le camp de la tripentante, et de l'autre, bah, s'assurer que voilà, les neutres ne vont pas en profiter effectivement pour ravitailler allègrement l'Allemagne à des prix défiant toute concurrence. Quoi.
Ce qui veut dire que du point de vue pratique, faire un blocus pour une puissance navale, c'est faire plusieurs choses. C'est d'abord avoir suffisamment de bâtiments en mer pour être capable de tenir et à minima de dire qu'on tient l'espace maritime et qu'on bloque, mais c'est aussi la pratique des inspections. Et ça, il y a une histoire longue des inspections de navires qui peuvent relever de différents aspects. On peut penser, on en avait parlé avec Olivier Aranda, aux inspections des navires négriers pour faire appliquer les règles et les traités qui commencent à interdire la traite fin 18e et 19e. Et puis, l'inspection d'un navire neutre ou l'inspection d'un navire qu'on soupçonne de forcer le blocus. Et alors ça, c'est intéressant parce que ces inspections, c'est à la fois codifié et en même temps c'est toujours un épisode qui peut basculer, c'est-à-dire que ça peut mal tourner. On tombe sur un capitaine ou un équipage un peu hostile, des gens qui ont passé trop de temps en mer, au contraire des gens qui ont un peu la gâchette facile du côté de ceux qui inspectent et qui se demandent si on n'est pas en train de leur préparer un mauvais coup. C'est toujours des épisodes de tension, les blocus, avec des risques de basculement.
Ah oui, et on voit, ce qui est très rigolo quand on regarde dans les archives, c'est en fait les tensions même internes aux États. C'est-à-dire que, par exemple, les marins français ont une pratique du blocus, enfin en tout cas du droit de visite, qui irrite profondément le ministère des Affaires étrangères parce que régulièrement il y a des plaintes parce que voilà, telle vapeur allant vers Rotterdam a été contrôlée un petit peu brutalement par la marine française qui veut pas s'attarder parce qu'elle commence à avoir peur d'être torpillée. Donc il y a tout un jeu là-dessus, effectivement, il y a tout un enjeu là-dessus autour voilà, de la question de la visite, du risque que prenne en fait le bâtiment qui va visiter le navire soupçonné de contrebande.
On peut peut-être parler un peu du soubassement en quelque sorte intellectuel et idéologique du blocus. C'est quand même, enfin, c'est comme dans à peu près toute chose à cette époque-là, il faut souligner l'importance d'Alfred Mahan, c'est-à-dire de cette conception qui devient complètement hégémonique à la fin du 19e et au début du 20e siècle, du sea power, de la puissance maritime, et surtout de l'importance de la guerre au commerce, de l'importance cruciale du commerce. À quoi sert une marine? Ça sert fondamentalement à protéger le commerce, et à quoi sert une marine? Ça sert éventuellement à ruiner le commerce de l'autre. Donc est-ce qu'on peut dire quelque chose, disons, du cadre intellectuel dans lequel, pendant la Première Guerre mondiale, mais ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui à bien des égards, on pense, du côté militaire, ce que c'est cet outil du blocus, quoi.
Alors, effectivement, Mahan, c'est le... De toute façon, quand on parle marine, on parle forcément Mahan au XXe siècle. Alors, Mahan, qu'on a souvent présenté, hein, justement, au contraire, comme l'adepte hein, de la bataille décisive...
Les deux vont ensemble.
Voilà, mais qui a justement une vraie réflexion sur le fait que les marines militaires, en fait, procèdent de la marine de commerce. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas de marine de commerce, ça n'a pas d'intérêt d'avoir de marine militaire.
Et c'est pour ça qu'il faut une bataille décisive, c'est pour annihiler la marine ennemie.
C'est comme ça qu'on arrive à revenir à la bataille décisive. C'est-à-dire, en fait, le mieux, si on veut se débarrasser de l'adversaire, le mieux, c'est de l'annihiler définitivement, et comme ça, après, on est tranquille, on n'a plus besoin. Il y a un autre stratège qui est très important en matière de blocus, c'est en fait, c'est Corbett. Corbett, c'est...
Donc c'est Sir Julian Corbett, voilà, qui est légèrement postérieur. Ouais,
qui, pour le coup, est britannique, qui écrit avant la Première Guerre mondiale et qui va aussi être actif pendant le conflit, et qui, en 1911, en fait, va poser l'idée que la guerre sur mer, en fait, c'est une question de guerre des communications. Et que l'objectif de la guerre sur mer, c'est à la fois d'avoir la maîtrise des communications, mais aussi d'interdire à l'autre d'avoir cette maîtrise-là. Et donc, en fait, voilà, la guerre sur mer, c'est une question de maîtrise de communication toujours en bascule entre les deux belligérants, sachant que vous pouvez mettre de la mer au sens très large, mais que ponctuellement, sur un espace donné, à un moment donné, vous pouvez, en fait, perdre cette maîtrise de la mer, enfin, cette décommunication, parce que voilà, la situation tactique fait qu'elle ne vous est pas favorable.
Le blocus, dans ses soubassements idéologiques et théoriques, à quel moment arrive l'idée que c'est pas seulement le commerce naval de l'adversaire qu'on veut éliminer, mais c'est la capacité militaire, la capacité de mobilisation industrielle, cette idée que finalement le blocus c'est l'outil pour mettre à genoux économiquement l'adversaire. Alors c'est clair en 14-18 que c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on est, mais ça s'est élaboré progressivement.
Oui, mais on trouve même la genèse quand on voit par exemple le blocus de l'époque moderne, entre guillemets, enfin le truc classique, entre guillemets, la Royal Navy bloque Brest. En fait, bloquer Brest, c'est effectivement empêcher l'arrivée de la flotte, mais c'est aussi empêcher l'arrivée des matières premières qui vont permettre de construire des bâtiments, c'est empêcher l'entraînement des marins. Et donc déjà, en fait, à certains égards, en fait, commence déjà à cristalliser cette idée-là que voilà, c'est pas qu'une question militaire, et qu'en fait, très au-delà de la question, entre guillemets, purement « je bloque la flotte adverse parce que ça va me permettre de faire ceci ou cela ».
À quel moment est-ce que, pour prolonger un peu ma question, est-ce que, au-delà de l'économie, il y a l'idée que on va porter la guerre en quelque sorte sur les civils adverses en bloquant leur ravitaillement? Parce que, évidemment, le 14-18, c'est le blocus naval de l'Allemagne par les Alliés, mais c'est aussi la guerre sous-marine faite par l'Allemagne pour étouffer, asphyxier la Grande-Bretagne, y compris au plan alimentaire. Donc là, est-ce qu'on franchit pas un cap quand même dans ce que peut faire un blocus, y compris sur les civils adverses?
Si, alors le cap, il se franchit fin 19e, début 20e, parce qu'en fait, bah, c'est les effets de la mondialisation de la période, avec le fait que voilà, que déjà il y a une spécialisation accrue hein, des différentes régions, que sont des pays, à commencer par les Britanniques, en fait, enfin entre guillemets, sacrifient leur agriculture pour aller très vite à l'industrie, et donc voilà cette interdépendance économique là, et c'est côté britannique on voit les réflexions vraiment tournant du tout début du XXe siècle, on commence à réfléchir en disant voilà, est-ce que bah il y aurait pas moyen, en frappant l'économie, en bloquant l'adversaire, en fait, bah, de parvenir à un résultat. Sachant que ceux qui prônent cette stratégie-là, hein, pensent pas que ça va se faire en un coup de cuir à peau, mais l'idée, c'est voilà, c'est pour ça qu'en fait, dès le début de la Première Guerre mondiale, en fait, dès le déclenchement de la guerre, en fait, le début du blocus, alors même s'il n'est pas proclamé urbi et orbi comme ça, mais en fait, dès le 5 ou 6 août, en fait, on a déjà des formes de blocus qui se mettent en place parce que on publie les listes de contrebande, etc., etc., et donc on commence à patrouiller, on commence à raisonner en mer, donc en fait, ça a déjà été pensé, ça a déjà été préparé auparavant, et les plans de guerre, alors, on espérait entre guillemets, enfin, les marins espéraient, une bonne partie d'entre eux espéraient cet affrontement décisif, mais en fait c'est déjà prêt, et c'est pour ça que ça se met en place si vite en fait.
Oui, mais avec un effet qui est comme toujours extrêmement différé, parce que rappelons que c'est le grand point commun de la guerre économique toujours, c'est que ça ne marche jamais comme un truc miraculeux, ça prend toujours, en l'occurrence pour l'Allemagne, ça prend 3 ou 4 ans avant qu'il soit vraiment étouffé, la fourniture de fer, etc., etc., etc. Alors justement, on peut peut-être entrer maintenant un peu plus dans le détail de comment ça marche à cette époque-là, et on voit en vous lisant, donc vous avez travaillé sur le blocus du canal d'Otrante, donc de la mer Adriatique pendant le début de la Première Guerre mondiale, on voit que ça marche mal.
Non, alors ce qui est rigolo, c'est que Otrante, tactiquement parlant, en fait, ça ressemble beaucoup à bloquer Brest pour la Royal Navy. En fait, on a des forces légères à proximité, les grandes unités en retrait. En revanche, ce qui est important aussi, c'est que le fait...
La Royal Navy a fait pendant tout le XVIIIe siècle, emmerder les Français à la sortie de Brest, c'est vraiment c'est le grand point commun de l'histoire navale du XVIIIe siècle.
En fait, il y a plein d'autres contraintes qui arrivent.
Oui, c'est ça. En fait, bloquer, c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est facile à proclamer un blocus, c'est très dur à réaliser.
C'est très très compliqué, parce qu'en fait, pour le coup, pour la Première Guerre mondiale, la question, c'est le ravitaillement en charbon, c'est-à-dire qu'en fait, les bâtiments ont une consommation phénoménale, et comment est-ce qu'on ravitaille, comment est-ce qu'on assure la logistique de bâtiments qui sont pas faits pour ça, voilà. Et en fait, donc, on se repose d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il n'y a plus de problème de vent, alors même si en Adriatique, c'est qu'il peut y avoir du vent, et donc ça peut être compliqué, les conditions de navigation ne sont pas non plus idéales, mais voilà, on a cette problématique logistique qui revient, cette problématique d'approvisionnement, parce que, voilà, pour amener, il faut avoir du charbon à proximité, enfin, il y a tout un train logistique dont la marine française est dépourvue complètement à la veille de la Première Guerre mondiale, et donc voilà, la question de l'approvisionnement, bah, en fait, remet en quelque sorte des chaînes au pied des bâtiments qu'ils n'avaient pas au moment de la marine à voile, quoi.
Et c'est intéressant parce que c'est vraiment à chaque fois un paradigme de très grande puissance navale qui essaye d'imposer sa volonté à la petite puissance. Ah, si, on revient un tout petit peu en arrière, mais c'est la grande histoire quand même du 19e siècle de différentes puissances occidentales qui essayent de bloquer à certains moments l'Empire ottoman, etc., qui décident de, en quelque sorte, mettre dans la balance leur grande puissance navale pour forcer un petit à céder. Et là, au moment de la Première Guerre mondiale, on voit que ça marche plus, on voit que ça coince parce qu'il y a d'autres choses qui sont arrivées, les sous-marins, les mines. Et du coup, paradoxalement, alors qu'on aurait pu penser que la technique, enfin comme toujours la technique est un peu ambiguë, le progrès technique est un peu ambiguë, on aurait pu penser que le progrès technique permettrait à la grande puissance de démultiplier ses moyens, en fait on s'aperçoit que c'est essentiellement des râteaux sur son passage.
Quoi. Ouais, parce qu'en fait la puissance faible, entre guillemets, bénéficie aussi du progrès technique. Et grosso modo, entre la torpille, les mines et le sous-marin, clairement, bah, en fait, vous posez des problèmes au bloqueur parce que bloquer, c'est être stationnaire, en tout cas, être quasiment fixe. Et donc, c'est des, voilà, le sous-marin.
Donc être prévisible.
Voilà. Donc être prévisible, donc être visible. Et donc, de fait, vous mettez vos bâtiments en danger. Et donc, voilà. C'est pour ça que ce progrès technique joue effectivement des deux côtés. Et la puissance faible, en quelque sorte, va aussi beaucoup bénéficier de ces progrès techniques, et de ces techniques de contre-blocus, en fait.
Mais c'est d'ailleurs, c'est très amusant parce que donc, on voit que ça n'est pas dimension. Enfin, ça fait évidemment un parallèle avec aujourd'hui, mais on ne dimensionne pas une marine pareil pour faire un blocus et pour faire une bataille d'assises, et vous racontez ça pour au moment du blocus, c'est-à-dire si on a les gros cuirassés français qu'on serait très content d'avoir s'il fallait piller l'Italie, mais ça fait essentiellement des très grosses cibles, voilà, pour une sorte de guérilla navale en face, quoi.
C'est ça, c'est en fait il faut avoir des, en fait pour bloquer il faut des bâtiments très légers parce qu'effectivement les cuirassés ou les unités précieuses, en fait on n'a pas la capacité à les perdre, en fait on peut pas les perdre. Or bloquer une zone, une région, c'est de fait s'exposer. Et donc voilà, mettre une unité précieuse à proximité, d'ailleurs ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, hein, et on voit le blocus reculer au fur et à mesure en fait, des torpillages. Il y a le Jean Bart, qui est le navire amiral de la flotte française qui se fait torpiller, alors, qui arrive à regagner Malte, mais en fait en décembre 14, et tout de suite on voit que la ligne de blocus recule et qu'en fait on passe d'un blocus du canal d'Otrante à un blocus qui se passe en plein milieu de la mer Ionienne, parce qu'en fait voilà, on veut... entre guillemets, sauvegarder les grandes unités, les mettre le plus loin possible. Mais on en a besoin aussi parce que voilà, si la flotte austro-hongroise sort, bah, c'est ces grandes unités qui vont devoir intervenir.
Alors c'est fascinant, on peut prolonger un petit peu cette idée de l'attrition du bloqueur, en fait, parce que dès l'époque de la marine à voile, je pense en particulier aux guerres napoléoniennes, c'est très frappant de voir que être stationné pour un blocus de Brest, mettons, c'est extraordinairement pénible et difficile parce qu'on est en mer tout le temps. Il faut que le blocus soit maintenu, donc ça veut dire que ça use énormément les navires, les équipages, que la question du ravitaillement se pose, mais c'est pas en charbon à l'époque, c'est en eau, c'est en vivres, donc il faut mettre en place toute une chaîne logistique. Et puis, voilà, effectivement, il faut être en capacité de mettre en mer en permanence autant de navires qui n'ont pas forcément été conçus pour ça.
Et de toute façon, le blocus, c'est un acte politique. Enfin, c'est aussi, voilà, c'est une façon de montrer qu'on fait quelque chose. Il y a plein d'enjeux après de propagande, dans un sens ou dans l'autre, parce que voilà, on peut se présenter comme victime du blocus, ou au contraire, voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver.
Oui, et ça c'est très important parce que ça permet de faire pression aussi sur des opinions hors du cas des belligérants, dans le cas de la guerre civile des États-Unis. Le gouvernement légitime qui fait face à des rebelles peut dire très clairement, si vous achetez du coton aux rebelles du Sud, ça veut dire que vous rompez les relations diplomatiques avec nous. Voilà, que faites-vous si vous participez à ça, vous ne respectez pas notre blocus, mais ça veut dire aussi vous faites un acte hostile en achetant ce coton.
Oui, alors pour le coup, les puissances européennes vont répondre au gouvernement du Nord, mais la manière dont vous faites votre blocus est illégale, et donc on peut quand même, parce que justement votre blocus n'est pas tout à fait légal, parce que voilà, vous appliquez la doctrine voyage continu qui fait que vous prenez seulement la destination finale du bâtiment pour pouvoir arguer du fait que vous avez le droit de l'intercepter. Et donc voilà, il y a tout un jeu là-dessus de propagande autour du blocus. De toute façon, c'est vraiment, voilà, c'est un acte politique aussi le blocus, enfin, ça a des effets politiques très importants en plus des effets sur les populations et sur la société.
Et ça, c'est un truc qui est très intéressant dans cette question du blocus, c'est qu'on a l'impression d'une importance démesurée des juristes. J'ai rien contre les juristes, hein, mais c'est vraiment, on a l'impression que c'est quasiment les acteurs principaux de cette question-là, qui sont partout avec des théories du droit, qui sont concurrentes, etc. etc. Et on a presque l'impression d'une surproduction de textes et de théories juridiques sur le truc, comparé à une efficacité, disons, sur le terrain, purement naval, qui est à tout le moins inégale ou incertaine, puisque en fait il y a ce qu'on chope et il y a tout ce qu'on chope pas, et enfin bon, on n'a jamais pensé que l'on faisait un blocus parfaitement étanche, ni de la Confédération, ni de quoi que ce soit.
Ouais, encore moins le blocus continental napoléonien, parce que les lignes de côte européennes, les bloquer, bon courage.
Voilà, donc il y a une sorte de truc de, voilà, il y a la théorie et puis il y a la pratique, quoi.
Je crois que pour le coup, c'est le droit maritime en général qui a beaucoup de comme ça, mais pour le coup du blocus, ce qui est rigolo, c'est qu'à Londres, lors de la déclaration, enfin des négociations qui vont aboutir à la déclaration de Londres de 1909, en fait, dans la délégation française, il y a un officier de marine. Et qui en fait qui est complètement effacé quand on regarde les archives au Quai d'Orsay de la convention, enfin de toute la, en fait il prend quasiment jamais la parole, même sur les questions techniques, c'est-à-dire que justement il s'engueule sur voilà, qu'est-ce que c'est qu'un blocus effectif, question voilà, parce que c'est bien de dire que pour qu'un blocus soit tenu il faut qu'il soit effectif. Une fois qu'on a dit ça, en fait on a dit beaucoup de choses et pas grand chose en même temps, et donc pour le coup en fait c'est toute la délégation de juristes du ministère des Affaires étrangères qui va justement, avec ses homologues des autres pays, définir ce qu'est ce blocus effectif, alors que voilà, il y a des officiers de marine et qui en fait qui interviennent très très peu dans les discussions. C'est assez intéressant de voir ça. Ouais.
Est-ce que ça veut dire que dans les hauts échelons de la marine française, dont vous avez en partie étudié les archives, c'est une question qui ne passionne pas ? Moi, je serais tenté de dire, les stratèges navals français, ils ont plus envie de faire des grandes croisières ou de grandes opérations que la routine, quoi. La routine de faire les allers-retours devant un canal, devant un port, dans un bras de mer. Voilà. Est-ce que c'est souhaité par les stratèges?
Alors, c'est pas, clairement pas la guerre à laquelle ils se sont préparés. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va voir ça sur toute la hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, le passage de cette guerre rêvée, en quelque sorte, de cet affrontement décisif, etc., à la guerre qui va être vraiment menée, c'est une énorme déception. Et quand on regarde notamment dans les archives privées, en fait, toute l'année, enfin, la fin de l'année 14, début 15, en fait, ce qui domine, c'est vraiment la honte. En fait, c'est pas la guerre, on se bat sur le front, enfin Paris est menacé alors que nous, on brique la mer mais il se passe rien. Et donc ce qui est rigolo aussi pour le coup, c'est qu'en fait on va voir aussi des recompositions des normes d'honneur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va devenir honorable au cours de la Première Guerre mondiale, justement, c'est l'abnégation, le sacrifice de soi dans les tâches obscures que dont personne ne parle.
En plus, ça permet de faire un parallèle avec les tranchées en plus. On tient bon, On a la ténacité, etc. Mais on se dit que les types, les capitaines, quand ils recevaient leur affectation, si on leur disait vous allez à Papette pour protéger les intérêts français dans le Pacifique, ils étaient plus contents que si on leur disait blocus, quoi.
Ouais, alors sachant qu'il y a quand même un petit élément, c'est que bloquer, ça implique d'avoir beaucoup de bateaux, donc beaucoup de commandements. Donc ça peut aussi avoir une autre. Ça peut aussi être utile pour ça. Mais clairement, oui, c'est pas du tout la manière dont les officiers, notamment les officiers pour le coup, parce que c'est plus simple d'étudier la population d'officiers de marine, avait envisagé la guerre, et c'est pas du tout la manière dans laquelle ils ont été en quelque sorte élevés. Et donc c'est une vraie, il y a vraiment quelque chose qui se joue en 14-15 justement sur la question de le passage de la guerre rêvée à la guerre réelle, quoi.
Mais ça c'est vrai pour les Français, c'est vrai aussi pour les Britanniques, ou est-ce qu'eux ils sont plus prêts peut-être culturellement à ce genre de... Enfin, ils ont plus d'habitude de maîtriser la mer que les Français de manière tout à fait évidente.
Ils ont une pratique du blocus qui n'est pas la même, parce que pour le coup, côté français, on est plutôt le bloqué que le bloqueur. Côté britannique, on est de tradition, enfin en tout cas depuis plusieurs siècles, la puissance maritime, donc la puissance bloquante. Donc voilà, il y a une expérience du blocus, il y a un usage du blocus. Et il y a aussi, quand on regarde, il y a eu pas mal de débats stratégiques. En fait, il y a vraiment eu beaucoup, dans les 10 ou 15 années qui précèdent la Première Guerre mondiale, en fait, les Britanniques vont changer à plusieurs reprises de plan, blocus rapproché, blocus à distance, etc. etc. Donc en fait, l'objet a été pensé avant. C'est pas une surprise, on sait qu'il va se passer. Alors, on sait pas forcément les modalités, mais on sait que ça fait partie, entre guillemets, du package guerre, qu'il y aura ces opérations-là, avec ce que ça implique pour pouvoir les faire.
Comment on franchit un blocus quand on est bloqué ? Est-ce qu'il y a des tactiques particulières ? Est-ce qu'on déguise l'apparence d'un navire ? Est-ce qu'il vaut mieux des petits navires qui ont plus de chances de passer inaperçus ou une grosse sortie en force ? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a une réflexion sur ça ?
Alors, ce qui passe le plus souvent, c'est les neutres. Donc en fait, toute la réflexion, notamment du côté du bloqueur et du bloqué, ça va être la question de comment est-ce qu'on arrive à faire passer ces cargaisons sur des bâtiments neutres et pour leur assurer ensuite l'échéance. Parce qu'en fait, quand on regarde, si on reprend l'exemple de la Première Guerre mondiale, en fait, il y a peu d'interceptions de bâtiments allemands en mer, puisqu'en fait les bâtiments allemands se réfugient au port. C'est beaucoup trop dangereux de tenter de naviguer. Donc, en fait, très vite, la question, ça devient la question du trafic des neutres.
Alors, le blocus de 14-18, il y a une autre dimension. On a parlé plus de la Méditerranée parce que c'est vrai que votre article est passionnant sur le sujet. Mais dans la mémoire, et en particulier en Allemagne, celui qui compte, c'est le blocus de la mer du Nord, en gros, et de la Baltique, mais surtout de la mer du Nord. Et du coup, la question du ravitaillement, dans les controverses d'après-guerre, c'est devenu un énorme thème, notamment de la propagande allemande, puis de la propagande nazie, pour dire les Alliés ont affamé l'Allemagne, c'est le blocus qui est le responsable de la mort de centaines de milliers de civils. Les choses sont en fait plus complexes, mais ça veut dire que le blocus qui était quelque chose de technique, la plupart des gens au XVIIIe siècle, XIXe siècle qui n'étaient pas militaires, blocus, c'était pas forcément quelque chose de familier. Ça devient un thème central du débat public, en particulier en Allemagne.
Oui, c'est vraiment un objet de propagande, ce fameux chiffre de 800 000 morts liés au blocus de la faim. Enfin, on parle de blocus de la faim d'ailleurs, du côté allemand, qui est effectivement largement instrumentalisé. En fait, ça montre le fait qu'on passe sur une guerre industrielle. En fait, c'est la preuve de l'interconnexion du commerce mondial. C'est ça la grande différence, c'est qu'en fait, les populations civiles, les populations ouvrières sont dépendantes de ravitaillement qui est notre mer. On est dépendant, on est beaucoup plus interconnectés. Donc, mettre un terme à ces connexions, bloquer ces connexions, de fait, ça a des impacts énormes sur l'ensemble des sociétés et sur l'arrière. Et donc, en fait, on bloque certes le port, mais les effets,
les vrais effets en quelque sorte se font sentir en fait sur le front intérieur où c'est là voilà que se joue que va se jouer en quelque sorte la destinée du blocus.
Voilà, sachant qu'il y a des débats très importants encore aujourd'hui parmi les historiens pour savoir comment estimer les effets du blocus sur les populations civiles. Je pense notamment aux travaux d'Alan Kramer hein, pour ceux que ça intéresse, parce que il est sans doute faux de dire comme la propagande allemande de l'entre-deux-guerres que 800 000 morts ont été à cause du blocus, parce que de fait c'est aussi la mauvaise gestion du ravitaillement par l'armée allemande, etc. Mais il serait tout aussi faux de dire qu'il n'y a pas eu de victimes, que ça a eu des effets très importants sur les populations civiles dans le cadre, finalement, de ces politiques de guerre, tout comme les Allemands eux-mêmes torpillaient des navires de ravitaillement. Donc on a quand même cette montée aux extrêmes. Le blocus, c'est un des aspects de la montée aux extrêmes de la violence de l'époque.
Le blocus, c'est l'une des marques de la totalisation de la Première Guerre mondiale. C'est vraiment, voilà, c'est un des éléments qui permet de voir, effectivement, que la Première Guerre mondiale est en train de devenir une guerre totale, parce que, voilà, c'est... Bah, on est vraiment dans la totalisation. C'est les populations civiles. Il n'y a plus de distinction civile-militaire, plus de distinction front-arrière, et là, pour le coup, le blocus vraiment met ces problématiques-là au cœur de la guerre.
On peut signaler que c'est aussi complètement explicite du côté des Anglais, qui étaient assez persuadés de faire plier l'Allemagne, parce qu'ils avaient plein d'informations par le rôle des assureurs, notamment déjà la Lloyd's de Londres et tout, qui avait un rôle particulièrement important. Mais en tout cas, les Anglais avaient cette idée qu'ils allaient réussir à mettre l'Allemagne à genoux par ce blocus. Et on peut dire qu'ils ont raison, ils ont tort. Mais enfin, en tout cas, il y a une sorte de consensus des acteurs de l'époque sur l'importance décisive de tout ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les Allemands, quand ils se lancent dans la guerre sous-marine à outrance, ils sont aussi convaincus qu'ils vont réussir à mettre l'Angleterre à genoux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, les statisticiens allemands ont convaincu l'état-major, ou l'état-major s'est auto-convaincu, mais que voilà, si les sous-marins allemands arrivaient à couler 800 000 tonnes de bâtiments chaque mois pendant 6 mois, en fait, les États-Unis n'auraient pas le temps, enfin, les effets de l'entre-en-guerre américaine n'auraient pas le temps de se faire sentir que la situation serait pliée. Et quand on regarde, effectivement, c'est pas passé très très loin au printemps 17, les Britanniques font pas... Clairement, la situation est vraiment très compliquée. Par exemple, truc très bête, mais la Royal Navy ne fait plus sortir ses bâtiments qui sont chauffés au mazout parce qu'il n'y a plus assez de réserves. Donc, on revient sur les bâtiments à charbon. Donc, il y a vraiment de part et d'autre la conviction que oui, c'est le fond étant bloqué. En fait, je pense qu'il y a aussi une question pour les acteurs de se projeter vers un espèce de qui va permettre de débloquer la situation. Et donc, voilà, le blocus, l'arme économique donne en quelque sorte cet espoir-là de débloquer une situation qui est bloquée sur le terrain.
On retrouve le blocus d'une manière plus complexe durant la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que la France est dans une situation particulière. C'est un pays qui est sorti de la guerre par l'armistice, sorti techniquement pas totalement, puisque l'armistice c'est pas la paix, mais voilà, l'armistice crée une situation nouvelle dans laquelle la France n'est pas un belligérant contre les Britanniques, mais elle est quand même sous domination allemande, et du coup pour la marine britannique, bloquer la France, c'est à la fois un impératif stratégique, parce qu'on peut, évidemment, il faut empêcher au maximum les navires, U-boats allemands de sortir, etc., et priver l'économie allemande de ce dont elle a besoin. Et en même temps, c'est l'ancien allié, et c'est des civils qu'on espère aider et libérer un jour. Donc là, il y a une ambiguïté assez fondamentale aussi pour le blocus de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, il y a une ambiguïté, il y a aussi il y a des différences internes aux Britanniques. Par exemple, il y a la déclaration de Churchill, dans un ton très churchillien, en gros, rejoignez De Gaulle ou crevez de faim.
Voilà, en disant on va bloquer la France.
Voilà.
On va bloquer la France et ceux qui ne veulent pas être bloqués, c'est la résistance. Et comme ça, très churchillien, effectivement, pas forcément très réaliste.
Et après, il y a la réalité du terrain, c'est qu'en fait, ce blocus, qui est pour le coup proclamé, les Britanniques proclament le blocus à la fin du mois de juillet 1940. En fait, déjà, la marine britannique est quand même très très réticente pour le tenir, parce qu'en fait, c'est sympa de bloquer la France, mais il y a d'autres priorités à l'été 40 que de bloquer la France.
Il y a coulé les bateaux français aussi, bon, pardon.
Ça a déjà été fait. Donc.
Ouais. Non, mais après, ils vont le faire très bien tout seul aussi.
Il y a d'autres problématiques qui entrent en ligne de compte, mais clairement, là, il y a une réticence britannique. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce blocus, il est aussi récupéré par la propagande de Vichy. C'est qu'en fait, la situation alimentaire, économique du pays, elle est mauvaise. Bah, pour Darlan, c'est pas la réquisition allemande qui met la situation, enfin la France situation là, oh bah non, c'est le blocus britannique.
Oui,
donc voilà, il y a aussi un jeu là-dessus. Alors compliqué en plus par les Américains qui justement essaient de maintenir une espèce de politique un peu entre les deux et donc vont demander aux Britanniques de pas trop bloquer. Enfin donc voilà, ce blocus là, pour le coup, il est extrêmement intéressant en fait par les enjeux politiques qui dégagent et ensuite même sur des questions historiographiques de mémoire, c'est qu'en fait on a voulu voir dans ce blocus en fait la preuve, en tout cas dans cet allègement du blocus à l'automne 40, le fait qu'il y aurait une espèce de double jeu de Vichy, une espèce d'accord de fait entre Londres et Vichy. Or, en fait, vu qu'il n'y a pas de blocus, en fait, enfin, le blocus n'est quasiment pas tenu. Je crois que c'est moins de 2% des bâtiments qui sont interceptés. Enfin, le trafic à Gibraltar passe comme en temps de paix. En fait, il y a seules les lignes, enfin, effectivement, l'Empire qui est vraiment, pour le coup, qui subit les conséquences. Mais en fait, voilà, ça a des impacts très, très longs, très, très longtemps après le conflit.
Oui, on peut citer la thèse de Bernard Costagliola, et qui est aussi le biographe de Darlan, qui a démonté cette idée que, bah, finalement, Darlan, derrière la façade anglophobe, ça aurait été l'homme d'un accord secret permettant à la France d'être épargnée par le blocus, etc. Bon, ça, c'était une construction imaginaire, hein, de l'historiographie.
Oui, c'est la thèse du bouclier de l'épée, c'est la lecture aronienne de Vichy. Et pour le coup, sur la question du blocus, effectivement, les travaux de Bernard Costagliola torpillent, entre guillemets, définitivement cette thèse-là. Il n'y a aucun doute.
Bien placé.
Ouais. Non, bah, justement, puisqu'on en parle, ça pose aussi la question, évidemment, du blocus allemand de l'Atlantique, enfin de la guerre de l'Atlantique, avec cette question un peu indiscernable toujours de est-ce qu'ils ont vraiment failli faire plier l'Angleterre, etc. ou pas. Enfin bon, on peut dire quand même que, voilà, on a cette caractéristique qui, cette fois avec les sous-marins, n'est plus que déclaratoire, c'est aussi un effet de terreur, c'est-à-dire aussi à partir toujours de frappes qui sont statistiquement relativement négligeables, quand même à l'échelle du commerce transatlantique, réussir à provoquer des effets politiques, quand bien même la réalité des interceptions, elle est quand même très très en deçà de ce que serait un vrai blocus qui empêcherait, parce que s'il y avait eu un vrai blocus, bah, l'Angleterre aurait plié très rapidement.
Si on quitte la Seconde Guerre mondiale, on a noté une série de blocus qui sont problématiques à penser, parce que soit le mot est employé très loin de la chose navale, soit au contraire, la chose navale existe, mais sans le mot. Alors, on pourrait penser, par exemple, au blocus de Berlin, 1948-49. Alors là, pour le navaliste que vous êtes, on n'est plus tout à fait en terrain familier, mais c'est intéressant que le terme soit employé pour l'encerclement de la zone occidentale de Berlin et du coup, le pont aérien pour y faire face.
Qui, pour le coup, joue les rôles de contre-blocus. Mais c'est vrai que et ce qui est intéressant, c'est que ça a des effets aussi, c'est qu'après, à Cuba, l'une des raisons qui explique qu'on ne parle pas de blocus à Cuba, alors, il y a des questions de droit international, mais il y a aussi l'idée, c'est que ça évite la comparaison avec le blocus de Berlin. Donc il y a des rejets aussi comme ça derrière.
Alors Cuba, justement, peut-être qu'il faut poser un petit peu le décor. On est donc en octobre 1962, les États-Unis découvrent que l'URSS installe des fusées à Cuba. Il y a plusieurs options militaires sur la table. Heureusement pour tout le monde ici, la frappe nucléaire n'a pas été retenue. Et du coup, parmi les options, il y a celle de bloquer les arrivées d'autres navires soviétiques avec d'autres fusées et d'autres forces militaires. Comment ça se passe et pourquoi c'était pas si simple?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, ce qu'il faut bien comprendre à Cuba, c'est qu'en fait, pour amener les fameux missiles à Cuba, en fait, il y a 85 bâtiments qui sont employés, qui sont déployés pour permettre, l'acheminement. Il y a 50 000 hommes. Enfin bref, c'est vraiment une grosse opération logistique. Et donc voilà, quand le U2 prend en photo et que on s'aperçoit qu'il y a des rampes de missiles à Cuba, il y a plusieurs options: la frappe, l'invasion ou le blocus. Le blocus.
L'invasion avait déjà été testée avec des succès discutables.
Très limité.
Ouais, mais il n'y a pas de soutien aérien, dirait Curtis Lemay.
Bon, pardon.
Donc, trois options. Et effectivement, le blocus va finir par s'imposer parce que c'est le seul qui permet d'éviter de commencer à partir dans une escalade potentielle avec les Soviétiques, parce qu'on se dit, côté américain, que les Soviétiques ne vont pas. En fait, vont pas tenter de le forcer,
C'est ça qui est fascinant, c'est que ça fait porter la responsabilité du premier coup de feu sur le navire qui voudrait franchir le blocus. Mais du coup, ça pose la question pour ceux qui vont bloquer. Donc, il y a la marine américaine qui va commencer à patrouiller autour de Cuba et à essayer de détourner les navires soviétiques qui s'en rapprochent. Jusqu'où on va pour interdire l'accès?
Alors, les ordres sont clairs, hein, côté américain. Alors, ils vont parler de quarantaine pour éviter le mot blocus, parce que voilà, blocus en acte de guerre. Mais les bâtiments américains ont ordre d'arraisonner les bâtiments, alors qu'ils soient soviétiques ou blocs de l'Est, etc., et de les visiter. Alors, c'est ciblé très intelligemment. En fait, il y a tout un jeu de la part du renseignement américain, parce qu'on va d'abord cibler tel type de bâtiment où on sait que potentiellement il y a des choses. On va essayer de cibler aussi, par exemple, le premier bâtiment qu'il va visiter, c'est un bâtiment qui n'est pas un bâtiment soviétique, c'est un bâtiment libanais. Ça permet justement de montrer qu'on le fait, mais sans jamais, c'est pas un bâtiment soviétique.
On va pas visiter le navire amiral de la flotte soviétique.
Voilà, ça permet d'éviter les problèmes tout de suite comme ça. Et ce qui est intéressant pour le coup, c'est qu'en fait, à partir du moment où la quarantaine entre en application, en fait, les bâtiments soviétiques font demi-tour ou se stoppent tout de suite. Et donc, en fait, il n'y a pas d'interception quasiment de bâtiments de commerce, parce qu'en fait, voilà, les Soviétiques renoncent de fait compte tenu de ce que ça peut enclencher si effectivement il y a un affrontement au monde de franchir la zone de quarantaine, la ligne de quarantaine.
On peut préciser que c'est pas passé extrêmement loin, parce que donc il y avait des sous-marins soviétiques quand même pour escorter
et des avions états-uniens qui patrouillaient.
Oui, mais les navires états-uniens ont balancé des charges contre les sous-marins soviétiques. Des charges d'entraînement, certes.
Sauf que quand on est sous-marin, on ne sait pas que c'est une charge d'entraînement.
Alors, on peut savoir, mais bon, il y a quand même un petit doute. Et les sous-marins soviétiques avaient le droit d'ouvrir, de tirer des torpilles des ogives nucléaires, des torpilles dotées d'ogives nucléaires dans ces cas-là. Donc, bref, tout ça pour dire que le boycott peut aussi être un peu un jeu de débile qui peut assez facilement déraper, parce que structurellement, ça crée des zones de tension et qu'il y a des zones de tension. Spécialement à une époque où les principales puissances ont des armes nucléaires. En fait, c'est pas une bonne idée, quoi.
Ah oui, effectivement, en fait, c'est une zone de confrontation. De fait, on est dans des tout petits espaces avec des forces, voilà. Chacun imaginant ce que l'autre pense, n'étant pas certain de ce qu'il y a, parce que par exemple, pour le coup, le sous-marinier soviétique, qui effectivement, le commandant donne l'ordre de mettre la torpille, est convaincu que la guerre est déclenchée, parce qu'en fait. Et donc, enfin, donc c'est pour ça qu'il y a, voilà, c'est ce qui montre en fait toute la dangerosité en fait de ces questions-là, parce que voilà, ça peut déraper très très vite, très très fort.
Ouais, on peut citer un livre récent qui fait très bien le point sur cet épisode, c'est Sergei Plokhy. Nuclear Folly, A History of the Cuban Missile Crisis, qui est paru en 2021, qui est un super, super souvenir de lecture. Est-ce qu'il y a d'autres blocus dans l'histoire contemporaine qui vous frappent comme ayant été voilà, des moments où cet outil de guerre navale ou de contrainte navale a été plutôt mieux employé ou en tout cas a eu une certaine efficacité?
En fait, il y a toute une série de blocus, on va dire, politiques. Alors, qu'on va habiller blocus politique, en fait, c'est la politique de la canonnière, hein, des grandes puissances européennes, 19e. Et il y a par exemple même des blocus d'humanité. Il y a le blocus de Zanzibar en 1899, où en fait, sous des motifs humanitaires, lutter contre la traite, gros sous-entendu, des grosses idées britanniques de s'emparer définitivement de Zanzibar, de Mesopotamie, etc. Mais voilà, c'est proclamé en tout cas au nom d'un devoir d'humanité. Et donc, c'est inclus dans une espèce de blocus humanitaire qui va être mené, qui va être mis en place devant Zanzibar, à la fois par des forces britanniques, par des forces allemandes et par des forces italiennes.
Et deuxième moitié du XXe siècle, puisque si on reprend un peu le fil chronologique, quoi, après Cuba. Est-ce que il y a des choses qu'on a appelées blocus. Il y a par exemple, l'expression est un peu ambiguë avec embargo parfois. Mais par exemple, on parle de l'Irak après la guerre du Golfe et il y a le chiffre qui est souvent donné de 1 million de morts, notamment des jeunes enfants, qui en fait, quand on y regarde de plus près, est très très surévalué. Mais en tout cas, il y a cette idée que l'Irak de Saddam Hussein a été mis sous blocus, sous embargo, et que ça a eu des conséquences, encore une fois, humanitaires dramatiques. Voilà. Est-ce que c'est un exemple qui vous paraît parlant, ou est-ce qu'il y en a d'autres?
Non, mais effectivement, on est là typiquement dans les ambiguïtés, parce que pour le coup, en Irak, c'est un embargo, puisque justement, voilà, on est dans le principe d'une sanction économique qui vise à interdire voilà, un produit ou une famille de produits, mais qui, en fait, de fait relève du même type de logique et qui renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure sur effectivement l'enjeu après la Première Guerre mondiale sur les souffrances causées aux civils par les embargos. Et donc c'est vraiment de type relativement similaire dans ces conflits-là.
Oui, sachant que l'Irak est quand même l'un des conflits qui innove entre guillemets dans la conception même du blocus, puisqu'il y a une troisième dimension qui est la dimension aérienne avec ce qu'on appelle les no-fly zones, qui est d'une certaine manière une extension théorique de la pratique du blocus à l'espace aérien, même si c'est pas du tout les mêmes a priori les mêmes règles juridiques, parce que vraiment, le droit de la mer et puis le droit de la guerre et la guerre aérienne sont des choses vraiment distinctes, mais d'un point de vue conceptuel...
Ah, merci pour le fondu. Alors, je te propose d'arrêter là pour pouvoir expliciter pourquoi j'ai choisi de vous passer ça et puis essayer quand même de poser un soubassement politique, puisque vous l'avez certainement entendu, ce sont des militaires et des chercheurs et des universitaires, donc ils sont particulièrement complets. Concrets et qui vont dans le détail, mais ils nous donnent beaucoup d'informations et beaucoup d'éléments de compréhension sur ce qu'est le blocus et sur, quelque part, pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui et pourquoi, justement, ce choix a été fait de la part de la puissance impérialiste des États-Unis et de son guignol en chef, Trump. D'abord, on l'a dit et on le dira, la communication, c'est pas une stratégie. Donc, le blocus américain sur l'Iran, il perturbe les marchés énergétiques, il pénalise particulièrement les économies asiatiques, sans garantir de concessions iraniennes ni une amélioration de la sécurité maritime régionale. On en veut pour preuve, il y a encore et toujours des lancements de missiles, des attaques qu'on appelle aérobalistiques, donc c'est à la fois des missiles mais des drones et d'autres types, et puis à court et à moyen terme l'Iran dispose de ressources pour résister aux pressions, rendant toujours improbable un effondrement rapide du régime et donc obligeant Washington à repenser en permanence sa stratégie, puisqu'on ne sait pas dans quel état est véritablement l'adversaire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il semble que les prédictions les plus favorables en termes de capacité d'armement de la part de l'Iran s'avèrent vérifiées sur le terrain comme sur les hypothèses. Et c'est intéressant, c'est que l'utilisation du blocus, il faut le rappeler, hein, les États-Unis possèdent la première capacité en flotte internationale. C'est 10 porte-avions. Alors, c'est jamais 10 porte-avions en même temps, c'est pas possible. Il y en a toujours 3 en général. Un qui revient et un qui est en réparation et un qui repart. Mais bon, voilà, en termes de capacité et de masse, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Dans une perspective un peu similaire à ce que pouvait être l'Angleterre au XIXe siècle, même si il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais je vous mets ça pour avoir un peu votre capacité de représentation de l'impérialisme. Et c'est véritablement une stratégie de puissance qui pense que c'est la puissance qui pose le problème. Or, on vous l'a dit en introduction, les caractéristiques des guerres, y compris et plus particulièrement au Proche-Orient, c'est vraiment l'asymétrie. C'est-à-dire que on a des populations qui sont mobilisées par des vecteurs qui sont soit des vecteurs idéologiques, soit des vecteurs politiques, soit des vecteurs religieux, parfois même les trois en même temps, des vecteurs nationaux aussi, et qui se retrouvent en face de puissances qui sont à la fois extrêmement supérieures en capacité technique, financière, logistique, et qui pourtant résistent, voire même sont parfois en capacité de gagner. Et là, on a véritablement quelque chose qui est très intéressant. Alors, d'une part, il y a un complexe de supériorité de la part des impérialistes, hein, comme d'habitude. Hein, faut toujours savoir que vous savez très bien que c'est l'Europe qui a tout inventé, encore plus les Américains, et c'est nous qui avons appris à faire la guerre. Donc, c'est pas évidemment des sauvages qui vont nous apprendre comment on fait la guerre, et on a toujours cette espèce de mépris très colonial, hein, très néocolonial même, de penser que ces sauvages sont en tongs et en djellaba. Forcément, peut-être qu'ils ont des kalachnikovs, hein, mais ils ne sont pas capables de faire face à nos génies stratégiques, puisqu'on a quand même, on a Clovis, Kissinger et puis tous ces gens dont on vous a parlé dans l'audio. Parenthèse, d'ailleurs, on a appris il y a quelques semaines une énorme attaque sur la capitale du Mali par deux groupes. Une partie qui sont les restes de Daesh, l'autre du mouvement Azawad, ce qui démontre bien que, faut rappeler, hein, le Mali et le Sahel ont été pendant 10-15 ans le terrain de jeu des Américains, des Français et de l'armée française, ce qui montre bien qu'il y a vraiment des gens qui, dans les sphères stratégiques, n'ont pas compris. Alors, ce qui est aussi un élément extrêmement important, c'est que qu'est-ce qui se passe dans la sphère stratégique américaine ? Parce que aux États-Unis, chez les analystes, on a normalement un ensemble de panels qui sont en capacité de présenter différentes options et d'avoir des analyses qui sont particulièrement adaptées au problème. Alors, ça va du blocus, mais ça allait aussi, on se rappelle ici des interventions dans l'Amérique du Sud, de coups extrêmement précis, d'enlèvements, hein, comme Maduro, de coups d'État, de suppression comme des types opérations Condor, etc. Enfin, il y avait un archipel, hein, un panel de modes d'intervention qui faisait qu'on pouvait sélectionner ce qui semblait être le plus à propos. Or là, si ils ont choisi le blocus sur Hormuz, c'est quand même le plus mauvais choix parce que ça fait quand même presque 20 ans que les Iraniens se préparent à cette possibilité. Et que donc, ils ont mis tout ça en avant. Alors, est-ce qu'il y a une perte de capacité de la part des stratèges américains? Ou est-ce que, quelque part, c'est aussi une hypothèse tout à fait valable, en voulant sortir les gros biscottos comme on imagine Trump aime bien le faire, ils lui ont proposé cette solution d'abord et que celle-ci ça lui applique parce que ça permet de démontrer l'ensemble de son armada de son armada navale et donc d'avoir une nouvelle fois une affirmation de puissance, c'est tout à fait possible, mais toujours est-il que ça marche pas, ça va à l'échec, et d'ailleurs, il y a un contre-blocus qui est posé par les Iraniens, et qui lui semble fonctionner, parce que le troisième point, c'est aussi, par rapport à ce qui a été dit, le blocus est une arme politique d'abord, une arme économique ensuite. Et ne pas comprendre qu'une partie des échanges internationaux aujourd'hui s'est déplacée de la façade à la fois pacifique et atlantique pour passer du côté de ce qu'on appelle les BRICS, mais aussi ce qu'on a appelé... donc océan Indien, Polynésie, Japon, Chine, on a un très bon, on a inventé un très bel acronyme pour ça. C'est donc complètement zappé le fait qu'une partie de ces échanges économiques ne seront pas concernés par le blocus et que les échanges asiatiques, vont être eux-mêmes impactés. Et donc, les alliés potentiels et les sphères d'influence américaines vont elles aussi être extrêmement impactées. Le plus symbolique là-dedans, c'est évidemment Taïwan, qui a démontré à quel point elle était dépendante à la fois des hydrocarbures de la part de cette partie-là du monde et de l'autre des armements américains, puisque à Taïwan et en Corée, on a été obligé de baisser le chauffage, de couper l'électricité publique, enfin vraiment d'arriver à des périodes de rationnement par rapport à l'essence et aux hydrocarbures, quoi. Donc c'est vraiment un très mauvais coup tactique à jouer, et c'est ne pas comprendre ce qu'est devenu aujourd'hui le monde et le capitalisme, en tous les cas là où bat le cœur du capitalisme aujourd'hui. Alors tout ça qui est intéressant dans la crétinerie de ce moyen qui a été choisi, c'est comme si on avait un vieux moyen qui avait été choisi pour une situation aujourd'hui, totalement différente. Et on voit aussi l'épuisement des formes traditionnelles, en tous les cas des formes impérialistes de guerre telles qu'elles ont pu l'être dans la seconde moitié du XXe siècle, puisque, faut-il le rappeler, alors on a donc les États-Unis qui n'arrivent pas à se débarrasser de l'Iran et de son régime, et puis de l'autre, Israël qui tabasse dans des conditions extrêmement terribles le Liban, et qui a toujours quelques incursions et des attaques du Hezbollah. Donc ça mériterait de rentrer plus loin sur la question de la puissance et de la question de ce que sont les conflits aujourd'hui, comment elle mobilise le truc, mais ça nous paraissait intéressant justement d'avoir un espèce de pas de décalage et d'aller un petit peu dans la longueur par rapport aux différents, si vous avez l'occasion de regarder la téloche ou d'avoir des experts toutologues sur les radios, de pas avoir cette projection-là en la pensant matérialiste, capitalistique et à l'intérieur du temps, ce qui vous permet un petit peu mieux de saisir ces questions géostratégiques. Voilà. Denis, une remarque, une question, une envie?
Ah, parce que ce que tu dis, puis aussi ce qu'on a entendu, c'est difficile, c'est sûr. Je pense que les auditeurs ont dû se demander qu'est-ce que c'est que ça. N'empêche que c'est important, c'est super important. Et on voit d'ailleurs au niveau international que, bien souvent, au niveau information, ils nous manipulent. Ils manipulent les gens comme c'est pas possible. Par rapport au Liban, par exemple, ils nous disent que Israël est en train de massacrer le Hezbollah, en fait, on s'aperçoit que c'est pas vrai, il n'y arrive pas. Que la même chose au niveau de l'Iran, au niveau des États-Unis, c'est pas vrai, il n'y arrive pas non plus. Donc, je pense qu'on aura certainement l'occasion d'y revenir.
Tout à fait. Et on y reviendra en posant la question de la puissance et des conflits asymétriques, parce que si on ne prend pas ça en compte, on ne comprend pas pourquoi il y a eu des victoires de la colonisation, pourquoi il y a eu la résistance du peuple palestinien, etc., etc., etc.
C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Grégoire, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Donc, bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog de Chat Noir 51. Radio.
La radio libre et associative.